Toi qui sens bon comme ça.
Qu'est-ce que je sens?
Oh, tu sens les moissons, les betteraves, la terre.
Ça m'étonne pas, je suis cultivateur.
CO2, mon amour.
Cultivateur, jure-le sur moi.
Je le jure.
Et moi aussi, je fais de la campagne. Ah, il y avait des canards, des vaches. Dis, il y a combien de vaches dans ta ferme?
15.
Oh, dis donc, dis donc.
Ça me gêne de te causer de la culture. Je suis le roi.
Denis Chessou.
Je t'en retourne tous les automnes. 10 hectares de terre à betterave. Et la betterave, c'est pas du radis.
On t'arrête pas, les racontes.
Sur France Inter.
Eh ben oui, pour séduire quelqu'un, ça peut marcher aussi, il n'y a pas de raison. C'était Jean Lefebvre et Denis Carrel, c'était un idiot à Paris. Ça remonte, il y a un paquet d'années. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche, au de mon amour, de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas, qui essaie. À la technique aujourd'hui, c'est Juliette Delperro qui va assurer devant ses petites manettes et boutons. Et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès, et c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Alors non, on n'est vraiment pas des rabat-joie parce que le cinéma, comme vous, sur France Inter, on aime et on adore. Mais peut-on demander à des gens hors sol qui prennent un avion, comme je prends mon vélo, de se caler sur les réalités environnementales qui, elles, sont sans paillettes? Alors le Festival de Cannes, bah rien de nouveau, hein, des acteurs du virtuel ne sachant pas tous être acteurs du réel. On va quand même rendre justice, hein, depuis une dizaine d'années à des acteurs, des créateurs plus nombreux qui s'engagent, qui agissent, qui se mouillent un peu plus qu'en disant « Oh, polluer, réchauffer, c'est pas bien, ça, je suis contre !» Et oui, Dame Nature, c'est le film de la vie de toute l'humanité. Et sans cette nature, point de salut. On va la fêter d'ailleurs aujourd'hui. Jouer la comédie, assurer un rôle ne présente pas forcément de difficultés énormes pour un professionnel. En revanche, être conscient de ses actes, achats, gestes en faveur de notre oikos, notre maison commune, eh bien c'est l'enjeu, vous le savez, de ce siècle à 7, 8, 9 milliards de « et moi, et moi, et moi » que nous sommes tous plus ou moins sur la Terre. Alors c'est sûr que les 2 km de moquette rouge festivalière, bon d'accord, c'est pas forcément grand chose, mais changer tous les jours, une partie certes recyclée pour servir d'écrin, quand même aux talons aiguilles, aux souliers vernis. C'est sûr aussi que les yachts, les jets privés, les hélicoptères et kilowatts déversés à foison ne sont peut-être pas les pointes les plus performantes de la transition écologique. Mais les stars et leurs satellites empressés peuvent tous permettre, puisqu'on leur donne le droit de fasciner les foules pendant 15 jours, et qu'on en réclame en plus. Alors s'il y a bien un domaine quand même où le rêve, la poésie conservent le pouvoir d'enflammer l'imaginaire, de sortir de nous-mêmes, des labyrinthes tortueux de la réalité, de partager des plaisirs et des émotions, c'est le livre et c'est aussi le cinéma. Bon, bien sûr, Cannes, c'est une usine à rêve qui est hautement tarifée, mais c'est aussi le moyen d'enchanter le monde, de mieux comprendre pour le rendre supportable, d'envisager d'autres chemins, écologiques ou non, de rencontrer les terriens qui l'habitent, de faire rayonner la France. L'art n'est-il pas l'interprétation, on va dire, personnelle du monde, des êtres, des animaux et des paysages, par lui ainsi sublimé, et aussi, bien sûr, le creuset de nos contradictions humaines. Alors, le Festival de Cannes est une fête qui fascine ou qui agace, un miroir, un carnaval éphémère, une nef des fous, une tour de Babel, un tourbillon de mots qui sont lancés dans l'espace comme les pollens d'un monde à notre image à refaire, sans cesse, et à sauver aussi pour nous sauver nous-mêmes. Alors sommes-nous comme des enfants sages? Si oui, eh bien qu'on nous donne des images. Et pendant ce temps-là, l'oiseau sur la branche. L'oiseau sur la branche se posait la question. Et toi, l'arbre, pour qui vas-tu voter? Mais moi, je ne vote pas. En revanche, on m'a planté pour que je donne mon tronc, mes houppiers, ma lignine, pour fabriquer des programmes à peine regardés et des bulletins de vote. Et toi, l'oiseau? Oh, moi, si je voudrais surtout que les promesses écologiques de tous ne s'envolent pas aussi haut que moi dans le ciel. Mais on sait très bien que la nature, bah, elle vote pas. Bah oui, je sais. Alors, quitte à donner ma sève, ma chlorophylle, mon verre, qui fait ce qu'il peut avec votre CO2, qui fabrique de l'oxygène, eh bien, ce serait bien si tous les jeunes prenaient un bulletin. Parce que la démocratie, c'est un cadeau, si. Et que la paix, bah, ça va pas de soi. Alors, il y en a, tu sais, hache à la main qui voudrait la débiter. Alors, à bientôt, l'oiseau. Mais comment ça, on se reverra pas? Bah, puisqu'on va t'abattre là, pour que les gens puissent voter. Si, t'inquiète pas, j'ai des rejets, mes graines que tu as disséminées sans le savoir, et plus tard sur mes branches, c'est promis, tu pourras chanter. Voilà. Alors là, c'est un petit, évidemment notre forme d'actualité. Et puis une autre actualité, alors ça, vous ne le savez peut-être pas, c'est la semaine du vrac. Bonjour, c'est Renaissance.
Bonjour Denis.
Et ben voilà, vous êtes la cofondatrice et directrice générale du réseau VRAC et on a envie d'en savoir plus. En fait, vous animez une réflexion autour de ce qu'on appelle le VRAC, c'était au sein du réseau Zéro Déchet, Zéro Waste, et vous êtes dit que, bon, monter une épicerie, c'est pas forcément votre truc, mais de créer le réseau VRAC, appuyé par ce même réseau, ben vous le faites déjà depuis 3 ans. Qu'est-ce que c'est exactement aujourd'hui? Parce qu'en fait, le but, c'est quand même de vous opposer au pré-emballé.
Voilà, tout à fait. Ben, l'idée derrière la création de Réseau VRAC, c'est de donner accès à une autre manière de consommer, durable et responsable, qui permet de choisir librement ses quantités et ses contenants, et donc effectivement de réduire le gaspillage des ressources en général, ressources alimentaires, mais aussi ressources des produites pour créer des emballages.
Alors aujourd'hui, donc, c'est une manifestation, on va dire, qui s'adresse aussi aux professionnels, donc dans un premier temps. Mais nous, ça nous concerne directement. Qu'est-ce que je peux acheter en vrac? C'est de l'alimentaire? C'est des produits d'entretien?
Aujourd'hui, quasiment tout est disponible en vrac. Donc effectivement, bien entendu, les produits alimentaires, les fruits, légumes, tout ça, c'est déjà du vrac. Mais vous avez aussi tout ce qui est épicerie sèche, sucrée ou salée, du riz, des pâtes, des lentilles, du sucre, des gâteaux, de la farine, des épices. Et également des produits non alimentaires comme les produits d'hygiène, d'entretien, du shampoing, du déodorant, de la crème également et de la lessive en vrac.
Mais là, il y a de la nouveauté parce que vous avez fait aussi du travail législatif, parce que là aussi il y a du législatif dans tous les sens. Ce qui fait que maintenant, je peux arriver avec mon bidon à condition qu'il ait eu du shampoing avant ou bien de la lessive avant, mais sans être obligé de repasser par la marque initiale.
Voilà, alors ça c'est la dernière avancée qu'on vient d'amener avec l'association, c'est de pouvoir réutiliser des contenants pour les produits cosmétiques et détergents identiques aux produits qui avaient été consommés avant dans cet emballage-là, sous réserve de respecter quand même un certain nombre de règles que notre association a mis en place parce qu'on ces emballages doivent avoir été validés aussi par le fournisseur. On ne peut pas utiliser n'importe quel type de matériaux. Donc ça peut être des matériaux comme le verre, le PET ou le PEHD, sauf prescription contraire formulée par le fabricant des produits.
Alors, aujourd'hui, aussi bien les gens que les baleines et dauphins n'ont jamais autant parlé quand même des plastiques. Faut juste rappeler une chose, c'est qu'il y en a quand même encore relativement peu qui est recyclé.
Tout à fait, exactement. Il y a beaucoup trop peu de plastique, en fait, qui aujourd'hui est recyclé. Je crois que seulement 20% plastique en France est recyclé. Et en fait, en permettant aux consommateurs, avec cette dernière avancée sur les contenants cosmétiques et détergents, de pouvoir réutiliser leurs contenants, on permet de réduire directement la production plastique.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Seiya Renaisson, dans cet engagement dans lequel vous êtes lancée en tant que directrice générale du réseau VRAC?
Ben, c'est de pouvoir consommer tout simplement autrement. Libre choix dans ses quantités, pouvoir du coup consommer à la juste dose, ne pas se voir imposer une quantité, un paquet de 500 grammes ou un paquet d'un kilo. Si je fais une recette de gâteau, j'ai jamais besoin de 40 grammes d'une magnifique en général, j'ai besoin d'un peu moins. Donc c'est à ce point-là, mais le vrac va aussi au-delà du libre choix des quantités et de l'emballage. C'est aussi des circuits courts, des produits bio, de saison et une juste rémunération des producteurs. Donc tout simplement, vraiment consommer de manière plus vertueuse pour l'environnement, pour sa santé et pour les personnes aussi qui fabriquent ces produits-là.
Merci à vous, Seiya Renaisson. Donc, semaine du VRAC. Vous avez les informations sur le site de CO2 Mon Amour. Et on aime aussi ne pas avoir de plastique, cher François Le Tourneux, dans notre nature. Bonjour à vous, François Le Tourneux.
Bonjour.
Alors, vous êtes le président de la Fête de la Nature depuis déjà pas mal d'années, parce que c'était créé en 2007 à l'initiative du Comité français de l'Union internationale de conservation de la nature et aussi du magazine de donc Terre Sauvage. Bon, en même temps, j'allais dire, en faisant un jeu de mots, qu'on fait vraiment la fête à la nature, et en même temps, les gens peut-être n'ont jamais été aussi, on n'en a jamais eu autant besoin, quoi.
Oui, on a été assommés tous ces, au sens propre, toutes ces dernières semaines par des rapports tous plus convaincants les uns que les autres qui montrent que les choses vont mal, et pourtant, on se rend compte que beaucoup de gens n'ont plus de contact, ne comprennent plus, ne constatent plus ce qui se passe de leurs propres yeux. Parce qu'ils ont perdu ce contact direct avec le vivant. Et donc, plus que jamais, il est important de temps en temps de s'asseoir dans l'herbe et de voir l'effet que ça fait. Et c'est à ça que sert la fête de la nature, qui va bien, oui, elle a, on a encore doucement augmenté de 10%, on est présent désormais dans toute la Suisse, en plus de la France, et puis petit à petit, l'internationalisation se poursuit. Mais surtout, ça fait 5000 manifestations. Il y en a donc une près de chez soi. Il y a toujours eu au moins une manifestation près de chez soi. Puis beaucoup de choses différentes. Cette année, deux nouveautés. D'abord, un énorme investissement de la LPO et de ses refuges. Traditionnellement, les refuges LPO, c'était des terrains labellisés pour la qualité de la gestion qui était faite dedans. C'est-à-dire que des propriétaires d'un petit jardin se disaient « Moi, j'ai envie de faire de la biodiversité dans mon jardin. » Et puis, je veux le faire tranquille et je ne veux pas être embêté par les chasseurs et les voisins. Et désormais, ils changent de comportement. Plus de 200 manifestations sont destinées à montrer à ses voisins, au contraire, que quand on se donne un peu de mal, on a des papillons, des sauterelles.
Et l'autre manifestation concerne donc les établissements pénitentiaires.
Voilà. L'autre orientation nouvelle dont on a le droit de parler cette année, on l'a fait déjà depuis quelques années, mais ça y est, ça a fleuri. Si je puis dire, c'est que, parlant de centres de réclusion, parmi les gens les plus privés de nature, il y a évidemment les détenus. Et en lien étroit avec l'administration pénitentiaire, qui est extrêmement proactive sur cette question, 34 centres pénitentiaires organisent des manifestations à l'occasion de la fête de la nature. Ce qui est très important, c'est que c'est une occasion pour les détenus de sortir en famille et d'être plongés dans cette nature qui leur manque quotidiennement et, en même temps, de retrouver leur famille et de réfléchir à ce qui se passe dehors.
Allez, on poursuit le voyage dans la nature. Je vais vous emmener tout à l'heure dans le Cantal et la musique aussi. C'est pour nous, c'est aussi de la nature. Well, I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sun find the way, but me, yes, I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass, it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. It must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together, in an eight I'll give away. Yes, in an eight I'll give away. So I smile a little too much, and the glass, it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass, it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me, I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass, it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass, it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass, it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Ouais, je vous disais que ça pouvait avoir un rapport avec la nature. Bon, là, c'était pas exactement ça, mais en tout cas, c'est très bien. C'était Loudoyon, Too Much, notre merveilleuse playlist. C'est Thierry Dupin qui avait choisi ce disque.
Mes camarades et moi, depuis quelque temps, on se fait du souci à votre sujet.
CO2, mon amour.
On vous trouve taciturne, sans enthousiasme, et ça nous inquiète. On se demande si vous n'êtes pas en train de nous préparer un petit break.
Denis Chessou.
Vous devriez vous mettre un petit peu au vert.
Sur France Inter.
Oui, ça doit être dans Buffet Froid, cette histoire-là. Alors, François Letourneux, donc, fête de la nature, du grand air aujourd'hui dans CO2 Mon Amour. On aime bien varier d'une émission à l'autre. Observer la nature est indispensable. Pour la comprendre, évidemment, c'est cela. Et on a besoin absolument de tout le monde.
Oui, oui, tout à fait, Denis. Parce que quelle est la seule chose que la presse généraliste ait retenue du rapport de Libbes? C'est il y a 1 million d'espèces qui sont menacées de disparition. Quand on regarde bien, les Français ont du mal à comprendre, parce qu'il n'y a pas une seule espèce qui disparaît de France. En revanche, ce qui se passe en France, c'est un effondrement, un effritement général du tissu vivant de la planète. Un effondrement des populations d'oiseaux. Des oiseaux qui sont encore là, qu'on entend encore chanter de temps en temps, mais moins qu'avant. Des insectes qui sont à peine encore là, qui ont diminué de 80% en quelques années. Et pour les observer, on a besoin de tout le monde. Il est évident qu'on ne peut pas compter les oiseaux sur l'ensemble de la France avec les quelques spécialistes des oiseaux, du muséum et des universités.
Donc on s'y met tous.
Donc on s'y met tous, ça s'appelle la science citoyenne. Et là aussi, dans les manifestations proposées à la fête de la nature, eh bien, il y en a beaucoup qui concernent l'observation de la nature avec une communication des données aux scientifiques. On s'assoit devant une plante, on regarde quels sont tous les insectes qui viennent sur la fleur, ça s'appelle Spipol, et on envoie les photos qu'on a prises avec son portable au muséum, qui comprend ainsi comment, et qu'il n'y a pas que les abeilles des ruches domestiques qui pollinisent les fleurs, mais tous les insectes, et que tous sont précieux.
La nature est un grand réseau, mais nous aussi, en apportant donc ces différentes informations, que ce soit pour les papillons, pour les oiseaux, pour les écureuils, pour que sais-je, enfin, bon, y en a même qui comptent les vers de terre aussi, parce que c'est extrêmement important, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi
voilà,
arriver.
On se focalise sur les grosses bêtes spectaculaires, mais on oublie qu'on est constitué d'autant de cellules non humaines que de cellules humaines, chacun d'entre nous. Et que par conséquent, chacun d'entre nous est un merveilleux jardin avec notre flore intestinale.
Microbiote. Voilà. Microbiote. Eh oui, bah oui, on a 2 kilos.
On
là, comme
est
ça,
un écosystème. On n'est pas un individu, on est un écosystème. Eh oui. Sans les autres constituants de cet écosystème, on ne vivrait pas. Et sans nous, s'ils n'étaient pas au chaud dans notre intestin, ils mourraient très vite.
Allez, je vous emmène maintenant, donc on va prendre l'air. Je vous emmène dans le Cantal, dans le nord du Cantal, où cela, ça s'appelle l'Artense.
Bien. C'est bien, mes belles. Bien sèche, ça. Alors, mes belus!
C'est les belus, c'est ça, Véronique?
Oui, c'est mon petit nom que je leur donne. Ouais. J'ose pas les appeler par des noms individuellement. Donc, ça reste les belus. Mais oui, mes jolies. Elles ont fait des beaux petits cette année.
C'est bien.
Des jumeaux, des pitchouns. C'est des bisets, c'est des races du Massif Central.
Oui.
C'est des races rustiques, ça résiste à tous les temps.
Et alors là, elles ont leurs poils, ils vont partir bientôt, là,
ouais,
ces poils.
Oui, oui, elles vont bientôt être tondues.
Tondues.
On a un berger, là, dans le coin, qui s'en occupe bien, qui vient régulièrement. Et là, elles perdent leur laine, déjà, toutes seules. Puis là, ils annoncent beau, donc on va pouvoir les tondre maintenant. Et puis là, cette race, enfin, le berger, monte d'ailleurs aux estives.
D'ailleurs.
Sur le Sancy, il les amène de mi-juin à mi-octobre pour passer l'été avec les mères. Ils leur laissent les béliers pendant 2 mois, le temps qu'ils fassent leur boulot. Après, ils redescendent les béliers et ils laissent les femelles là-haut. Et comme ça, quand elles redescendent, elles font des petits après.
Venez vous débarbouiller de grand air en écoutant la radio. Bah oui, c'est ça, c'est au-delà de mon amour. Vous avez le massif du Sancy et les monts d'Or qui vous regardent. On est dans la partie nord du Cantal. Alors, on s'est très bien réparti les tâches avec les copines et les copains de France Inter. Il y a ceux qui vont à Cannes et puis ceux qui vont dans l'Artense. Oui, diagonale du vide, mais du vide rempli de beauté. Donc, pas de tapis rouge, mais un tapis vert. Et là, vous avez donc les contreforts du Cézallier. Vous avez au sud les monts du Cantal avec le Puy-Marie et le plomb du Cantal qui sont bien visibles. Le Saint-Nectaire qui fait turbiner le lait aussi sûrement que les barrages turbinent l'eau. des forêts assez mélangées. Alors c'est d'ailleurs pas un coin d'ailleurs où le fric a envahi la chasse. Non, on sent qu'il y a une bonne gestion du territoire, ça se perçoit assez vite. Vous avez une herboristerie à ciel ouvert, des collines qui sont dominées par la forêt, par les tourbières, par l'élan. Donc là, on fête la nature aussi, naturellement. Le massif central en général, donc qui est un château d'eau. Donc c'est un paysage un peu bosselé hein, qui évoque les étendues parfois septentrionales de la Scandinavie. Vous avez des croix, des murets, la pierre est partout, qui a été laissée par le rabot des glaciers, des blocs de basalte, de granit, éparpillés comme tombés des poches de géants un petit peu oublieux. Allez, on est dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Bienvenue chez Véronique et Jérôme Gaillard, dans leur gîte, les Roches d'Artense, au nord du Cantal.
Il y en a une qui a besoin de câlins, c'est Fly. Alors ouais. Fly, c'est une femelle labrador.
Voilà, c'est croisé de chez croisé. Oui. Croisé porte et fenêtre, comme on dit. C'est la chien fidèle.
J'aime bien ça, croisé porte et fenêtre. Hein ouais. Bah oui. Alors comment on s'y fait donc à ce coin d'Artense, Véronique? Parce que vous êtes une fille de Lyon, vous êtes une fille de la ville, et puis vous êtes posée donc avec Jérôme, qu'on va aller retrouver tout à l'heure, dans ce coin donc ici qui est superbe. C'est vrai, quand on se retourne, il faut aller chercher le premier village à quoi, 5 km à peu près?
5 km, notre petit village de Marchal où il reste une boulangerie, une auberge. Ouais. Il y a 30 ans de cela, il y avait encore deux bars, il y avait l'école. Et voilà, mais bon, les gens partent un petit peu malheureusement, mais ça reste un village où les gens aiment se retrouver. Dès qu'il y a une petite animation de pays, il y a tout de suite 300, 400 personnes, on se demande d'où ils viennent, mais ouais, ils aiment se retrouver. Et ça, c'est vrai que c'est des gens... C'est des gens vrais, c'est des gens bien. Et...
Alors ici, en fait, vous essayez d'accéder, on va dire, à une espèce d'autonomie alimentaire. On ne peut le pas à 100%, mais enfin, entre les moutons d'un côté, les volailles, je vois le potager, là aussi.
Eh oui, le potager, là, on a attendu les 5 glaces parce qu'on est à 900 mètres d'altitude. Donc voilà, on vit avec le climat. Et bon, on attaque doucement le jardin. On va avoir effectivement de la volaille. Là, je vais au marché jeudi... le marché d'Église Neuve pour chercher notre petite volaille. On va prendre des oies, des poulets, un coq, des poules.
Ouais, j'ai essayé les dindes.
Oui, non, ça se reproduit. Elles n'ont pas le temps de se reproduire.
Ah,
alors nous, déjà, et puis les renards aussi.
Ah, oui.
Les renards, c'est leur festin d'hiver.
Ils prennent leur dîme, comme on dit.
Et voilà.
Et Fly qui mange de l'herbe. Donc, herboristerie à ciel ouvert ici.
Oui, on trouve de tout. C'est vrai que les gens qui connaissent... on m'a dit la semaine dernière... On peut commencer à manger les petits bourgeons des sapins, d'ailleurs.
Ouais.
Toutes les petites pousses vertes qui sont apparemment pleines de vitamine C.
Oh, on est accueilli par un caillou, là, Jérôme.
Et on est accueilli par un rocher de l'Artense qui va nous servir de siège.
Oh, attendez, on va bouger.
Non, on bouge alors.
On bouge.
Eh ben,
oui. On ira se poser le cul sur le caillou après.
Bon,
alors, justement, effectivement, on est quand même du granit bien hercynien. Après, on a quand même du basalte ici.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a vu ce matin?
Ce matin, le renard qui était encore déjà debout et qui mulotait tranquillement.
Ouais.
On a les Milans royaux qui sont venus nous faire leur danse dans les airs, à surveiller un peu, à faire le tour. Ils font le tour pratiquement tous les jours de leur territoire.
C'est ça.
Pour voir s'ils peuvent pas récupérer quelque chose à glaner. Qu'est-ce qu'on a vu? Nos salaires, ici, chevreuil, cerf, il y en a plein. Hier au soir, c'était un lièvre qui se baladait aussi à côté du potager. Donc oui, petit environnement de nature encore préservé.
Alors, les gens ne connaissent pas ce plateau qui est fait quand même à la fois d'eau, qui est fait d'herbe et aujourd'hui de forêt, quoi.
Aujourd'hui de forêt, c'est le château d'eau de la France, l'Auvergne, il n'y a pas de problème. Le puits de Sancy est la plus grosse montagne. Et de ce puits de Sancy, par toutes les rivières, dont j'ai plus connu la Dordogne. Mais nous ici, on a la Tarentaine, l'Auvergne, la Rue, la Santoire, enfin des rivières mythiques quand on est pêcheur, qui sont encore à peu près préservés, dans lequel on a encore une population de poissons sauvages. Et ça, c'est assez exceptionnel.
Bon, il y a un personnage quand même qu'on a oublié, Jérôme. C'est le champignon.
Ah, on a tout ce qui peut exister. J'ai la chance d'avoir un frère aîné qui est pharmacien, qui a fait des études de mycologie et qui a fait transpirer ça à tous ses frères et sœurs. On se gave ici. Alors... en restant raisonnable et en faisant réellement attention, mais on a, il est venu, il a repéré en un week-end plus de 1500 variétés. Alors, il va du lichen des arbres jusqu'à la girole.
Ouais.
Mais donc voilà, c'est hyper riche en champignons.
L'Artense, territoire à champignons.
Oui.
Une fois de plus, on ne dit pas où. Quoi.
On ne dit jamais où. Mais bon, les cèpes, c'est sûr et certain. chanterai à l'entube à l'automne, pied de mouton, canari, c'est le tricolomécaisse, le terreux aussi, le griset, petit gris, il y a plusieurs noms. Après ce plateau de l'Artense, donc sud-ouest du Sancy, on descend sur Bord-les-Orgues, c'était les cités minières à l'époque, c'est la création du barrage de Bord, mais un grand désert au niveau population. On a le flanc est du Sancy qui domine Clermont-Ferrand, qui lui est relativement bien peuplé. Nous, on est sur le flanc ouest qui prend toutes les précipitations qui nous viennent de l'Atlantique. Et donc, les gens ont petit à petit déserté, comme plein de campagnes françaises. Il n'y a, ouais, a pas qu'ici, mais ici, c'est quand même... on le sent, on le sent, c'est lourd.
Alors on essaie d'être autonome, et même la maison aussi, c'est-à-dire que là on ne le voit plus, mais donc vous êtes vous chauffez à partir avec une base de géothermie. Là.
On est à 900 mètres d'altitude, plein vent, sur une butte, dans le Cantal, ça ferait peur à tout le monde. Donc on a pris le problème à l'envers, on a fait une maison passive, c'est-à-dire qu'on a redoublé toutes les cloisons, tous les murs extérieurs, pour déjà avoir le moins de perte d'énergie possible. Et après, on a essayé de chercher celle qui était la plus adaptée ici, bon, le bois. Très bien, mais il faut stocker, il faut couper. Les granulés, c'est pareil, ça coûtait relativement cher. Ça obligeait de la place. On est parti sur une géothermie horizontale. Donc, on a sacrifié un peu plus de 1000 m² à un passage de tuyaux souterrains qui sont enterrés à peu près de 80 cm. Le terrain réchauffe du glycol qu'on fait passer sous terre, qui part à la pompe à chaleur, qui en extrait les quelques degrés qu'on peut. Mais on a une consommation, on a 550 m², 4000 euros de chauffage, d'eau chaude et de sanitaire.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est ridicule.
Donc avec ce gîte, quand même, qui accueille
avec
beaucoup de monde.
Avec un gîte, 23 personnes au couchage maximum, 9 WC, 7 salles de bain. D'accord. On s'attendait à des factures beaucoup plus lourdes. Ouais. Alors l'investissement de départ est onéreux. Il y avait les aides... de l'ADEME, entre autres, de pas mal de collectivités qui nous poussaient dans cette géothermie.
Mais on s'y retrouve parce qu'en fait, vous avez 10 à 12 degrés qui arrivent déjà du sol.
Du sol, directement, que la pompe à chaleur restitue après dans des planchers chauffants, dans des radiateurs. L'avantage, c'est que comme la maison est passive, on n'a pas de perte d'énergie, ce qui est le plus important. C'est plutôt que de chercher à en produire, c'est surtout d'éviter de perdre ce qu'on a produit. Donc voilà, la principale chose, c'était une maison passive.
Et ce massif est globalement assez récent, entre le volcanisme qui peut remonter à 10 millions d'années mais, et les glaciers, la formation est quand même très récente.
La formation est encore récente, on voit nos montagnes qui ne sont pas si usées que ça.
Bah non.
Donc ça a façonné cette Artense où on voit ressortir toutes les roches mères qui sont bien présentes. On est sur une région où la terre est pauvre, il ne faut pas se leurrer. Alors on a les plaines au bord des rivières qui sont exploitées un peu en maïs, choses comme ça. Autrement, on est sur une monoculture d'herbe. D'abord parce qu'on est dans la C et la OP maintenant du Saint-Nectaire, donc avec des agriculteurs tournés vers la production de lait à tout prix, aidés en cela par l'Europe et tout ce qu'on peut imaginer, plus après la sauvegarde de la vache de Salers. Notre Salers ici, notre vache rouge comme ils l'appellent, qui est assez magnifique et qui elle, qui part en viande de boucherie, qui est exceptionnelle. C'est pas une viande de gros rendement, mais c'est une viande qui est goûteuse, qui est vraiment super bonne.
Il y a quand même une course au productivisme. Et là, ça devient aussi un petit peu dingue et ça pose aussi des problèmes. Racontez-nous, quand on regarde ces vaches, quand on regarde d'ailleurs toutes ces mouches qui sont là, merveilleuses face à ce taureau. Ah oui, ça n'y a pas de doute,
c'est
un
joli bête. C'est un taureau, je te le confirme.
Et donc, on a ces bouses. Et alors, une bestiole comme ça, elle vous lâche quand même combien de kilos de bouse par
an? J'ai été étonné, 10 tonnes en moyenne. Une vache fait 10 tonnes de bouse par an. Et je me suis penché un peu plus loin en allant regarder dans le département du Cantal. Alors c'est pas propre qu'à notre région de l'Artense, mais sur tout le département. On a 150 000 habitants, 160 000 sur tout le département, mais 300 000 têtes de bétail, de bovins. Et donc avec ces 300 000, on va dire, têtes de bétail, on a une production de tonnes de bouse, mais c'est absolument énorme, sachant qu'en même temps qu'on a 300 000 animaux à peu près disponibles uniquement en bovins, on a à peu près 350 000 hectares de terre agricoles dans le département du Cantal.
Mais qui ne se valent pas tous, parce qu'il y en a qui vont être vraiment très pentus.
Bien sûr, il y en a dans la plaine, il y en a ici, voilà. Mais en gros, on a pratiquement une vache par hectare de terre agricole. Et chaque hectare donc, doit supporter les 10 tonnes de bouse que va poser chaque vache. Sage Adour-Garonne, l'agence de bassin, a fait une super enquête dessus. On est à peu près en équivalent 20 millions d'équivalents habitants, les 300 000 têtes de bétail.
Ah d'accord, c'est comme ça.
Au niveau de l'épuration, au niveau de l'assainissement, on est à un équivalent de 20 millions d'habitants, pour lequel on n'a absolument rien fait. C'est-à-dire que 20 millions en région parisienne, tout est assaini, tout est propre et tout repart dans la Seine dans les meilleures conditions. Nous ici, tout est étalé.
Ce que l'on comprenne bien, ça veut dire que les conséquences après, c'est sur l'eau.
Alors les conséquences, c'est d'abord le terrain en lui-même qui doit absorber cette montagne de lisier. On est sur un sol, nous ici, Sumène-Artense, en pente, gros ruissellement, pas énormément de terre sur la roche-mère qui est tout de suite disponible dessous, ce qui fait que tout ce lisier, fumier, bouse, tout ce qu'on peut imaginer, parce que même les intrants agricoles en rajoutent encore par-dessus, va finir très rapidement dans nos petites rases, dans nos, les rases, c'est les petits ruisseaux, on appelle ça des rases en Auvergne. Et tout finit directement dans ces petites rases qui alimentent des rivières plus importantes. Et dès qu'on arrive en plaine, on est avec des taux de nitrate et d'azote qui sont énormes. Et que, justement, le manque de pluviométrie a tendance à faire empirer.
Oui, parce que ça dilue moins.
Oui, ça dilue moins, bien sûr. Bien sûr. C'est les canards colverts qui sont là-bas. Migration de canards, ils se baladent. C'est assez exceptionnel. Un jour, on en voit partout.
C'est un petit lac délicieux, ça. C'est le lac du Tac.
Donc c'est le premier lac qui a capté l'eau, EDF a capté l'eau sur deux rivières, l'Auverte et la Tarentaine, qui nous descendent directement du Sancy, et finit dans le lac de la Stioule, et l'eau qu'on voit passer ici sous nos yeux va alimenter 45% de ce que turbine le barrage de Bord-les-Orgues.
Ah, okay.
Donc c'est énorme pour EDF. Avec bien évidemment des conséquences environnementales énormes. Le lac a été mis en eau en 69 début du travaux, mis en eau 72, et depuis, il n'a jamais été vidangé, ce qui fait que dès 1995, se crée une association de sauvegarde du lac qui est directement à l'aval, qui est donc le lac de la Crégue, qui est un lac glaciaire, donc il y a quelques dizaines de milliers d'années aussi, qui était sans bassin versant, du moins sans apport d'eau. Donc ils avaient une eau équivalente au lac du Pavin ou au lac Chauvet, très clair, cristalline. Les anciens disaient qu'on voyait une pièce de 1 franc dans 10 mètres d'eau. Alors ce lac était très pauvre, ce lac de la Crégue, il n'avait pas grand-chose comme poisson, il y avait quelques truites, quelques perches, des ombles chevaliers. Ça, c'était sympa, c'était un peu l'espèce endémique. Et tout ça a disparu quand EDF a fait passer, transiter, comme ils l'ont appelé, les eaux du Tac en direction du lac de la Stioule, qui est le plus en aval. On estime maintenant que dans le lac du Tac, on a 150 000 mètres cubes de vase. Que EDF rechigne à curer, on ne sait pas trop quoi en faire, sachant que dans cette vase, on retrouve tous nos effluents agricoles. Donc, ils ont estimé à 150 tonnes d'azote, 3 tonnes de phosphore. C'est des volumes qui sont assez importants et on ne sait même pas dans quelle mesure cette vase peut être récupérée alors que c'était à la base de l'alluvion. Donc cette association a eu raison de se mobiliser. Nous, on est arrivé avec Véro ici dans le pays. On essaie de leur donner des coups de main. Ça avance. Il y a eu maintenant un réel dépôt de plainte qui a été posé contre EDF. Donc tout ça est sur le bureau du procureur qu'on relance régulièrement tous les 3 mois.
Le souhait, qu'est-ce que ce serait? Donc, qui est curage, qui est quoi alors?
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le lac de la Crégue, si on l'avait gardé en l'état, est un apport touristique énorme, puisqu'on voit le nombre de cars qui se baladent au bord du lac Pavin.
Ouais. C'est tourisme contre kilowattheure, quoi.
Voilà. Eh bien, exactement. Donc, l'association demande l'arrêt immédiat déjà du déversement des eaux du Tac dans la Crégue. Ça, c'est la première chose à faire. Et après, d'envisager, je ne sais pas trop comment ça sera possible, une remise en état du lac de la Crégue. L'histoire se résume très simplement, on est en train de tirer, même chez nous, sur la nature. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la surproduction de lait pour faire du Saint-Nectaire, dans une vision productiviste de... Alors on n'est pas encore à l'extensif, on est encore sur du raisonné à peu près, mais on s'aperçoit que ce qui semble raisonné est déjà trop pour notre petite planète, je veux dire simplement. On a déjà des terrains qui sont surchargés, tout finit dans les rivières. Les rivières, on voit les conséquences. Alors, on avait avant que de la cyanobactérie. Au mois d'août, le développement de la chaleur, on a ces lentilles d'eau qui sortent, et bon, on interdit la baignade parce qu'on s'est quand même aperçu au bout d'un moment qu'au départ, c'était pas très grave, mais maintenant, ça devient dangereux. Et on a donc des rivières qui deviennent complètement colmatées. On a des algues filamenteuses de 30-40 cm à 900 mètres d'altitude dans le Cantal.
En tête de bassin.
Et voilà, c'est vraiment la tête de bassin. Et il va falloir dépolluer tout ça au fur et à mesure du fil de l'eau. Moi, j'aimerais bien revenir à un Saint-Nectaire de qualité, à un vrai lait de qualité, où on ne soit pas obligé de nourrir les bêtes, parce que même la terre n'arrive pas à le produire, donc on achète de la luzerne à droite, à gauche, on sait que c'est pas tout à fait autorisé. On achète un peu de soja, on achète un peu de colza, on achète un peu de tout pour nourrir les bêtes dans les étables. arrêtons cette course à la con, essayons au contraire d'avoir des prairies qui sont en meilleur état, des vaches qui auront trouvé toute l'herbe nécessaire, ne sont pas carencées en fer ou en choses comme ça, où on est obligé de les vacciner, de leur filer des coups de fortifiants, parce qu'il manque les oligo-éléments nécessaires qui n'existent plus. Mais oui, parce que tout est lié, il faut faire du foin. Donc pour faire du foin, on commence à le faire. Avant, on le faisait début juillet. Maintenant, on commence à faucher déjà le 15 mai.
Ah oui.
En espérant, alors ils vont regain, y mettre peut-être alors... les bêtes dessus, ou ils vont faire du regain arrivé au mois de juillet, pour peu qu'on ait un peu d'eau qui tombe. Voilà, même eux n'arrivent plus à s'en sortir, ils achètent des aliments à droite à gauche. Voilà, on est en train de faire un Saint-Nectaire peut-être plus d'aussi bonne qualité qu'avant, ce qui est dommage. 1970, 1 million de fromages sur la zone d'AOC à l'époque. 2010, 5 millions de fromages. On n'a pas rajouté un hectare. Il faut m'expliquer. On n'a pas rajouté un hectare.
Allez, Fly.
Allez, Fly. Allez, Fly. C'est ma chienne Labrador, 6 ans, qui connaît le territoire par cœur. Alors, je fais...
Elle connaît les canards, alors.
Elle connaît.
Ah bah oui, c'est son truc, ça, quand même.
Truc. Ça fait vraiment
ça un... nage.
Golden Retriever, le chien gros. Qui va me récupérer les miens, mais ceux de tous les copains qui viennent la chercher le soir à 10h30 du soir, parce qu'ils ont tué un canard qu'ils ne retrouvent pas. Fly part avec tous les copains, elle fait son boulot de chien de rapport, elle est fabuleuse pour ça.
Alors là, en fait, c'est votre chien qui nous conduit, hein. C'est elle qui...
Eh ben, on va aller voir.
Oui, on la suit,
on y va.
Oh, bon, elle connaît son toc.
Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Avantage du Labrador, ça ne la boit pas. Regarde les canards colvert qui sont en face. Alors c'est pareil, on voit encore à cette époque que les mâles. Les femelles doivent être en train de couver, mais suite aux orages qu'on a eu, le lac est monté de pratiquement 1 mètre, donc il y a de fortes chances que les nids des cannes soient noyés. Et donc les pauvres vont être obligés, on appelle ça recoqueter, donc redémarrer une couvée. Fly, Fly, viens vite là. Fly, viens là. Viens, Fly. Regarde, c'est une canne qui fait la canne blessée pour nous emmener loin de son nid.
D'accord.
Pour protéger ses petits. Viens vite là, ma fille. Oui, viens vite. On va les laisser tranquilles, ces canards. C'est bien. Ouais, t'as pas mis longtemps pour la trouver, ouais.
Oh là, oui, d'accord.
Et donc, elle est là, la canne.
Au milieu des roseaux.
Au milieu des roseaux. Je suis sûr qu'il y a un nid avec ses petites dents ou juste des œufs. Et elle est partie comme si elle faisait la canne blessée. C'est-à-dire qu'elle attire le chien loin du nid. Et on la voit qui revient. Regarde là, qui revient tranquillement.
Alors, pour vous, Lac du Tac, coup de cœur.
Toute cette région est un coup de cœur. Toute cette région est magnifique. Vraiment, on est heureux d'être là parce qu'on a réappris la solidarité entre humains. Les voisins nous ont accueillis de la plus belle des manières. Si on a besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas, on est à côté, vous demandez. L'humain ne compte pas son temps ici.
Non.
On peut les employer une après-midi complète à venir nous filer un coup de main. Combien je vous dois ? Rien. Bon, ça se traite toujours avec quelques bouteilles de vin rouge et des canons comme ça,
oui.
Mais rien. La voiture ouverte, les clés dessus. 365 jours sur 365. Ça n'a pas de prix. Voilà, les portes sont jamais fermées à clé. Chez nous, on vient chercher la tranquillité, la sérénité, le calme, le respect du temps. Le respect du temps. Le téléphone portable est banni. Et donc, du coup, on peut se balader une heure sans écouter sonner un téléphone ici. C'est assez agréable. Voilà, et c'est ce qu'on vient chercher, surtout, surtout.
Véronique et Jérôme Gaillard, donc sur les roches d'Artense au nord du Cantal. Alors oui, c'est banni, mais alors, en même temps, si vous voulez, c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'avec EDF, ils ont automatisé leur barrage, donc toute la région en a profité parce qu'ils ont eu la fibre. Eh ben oui, c'est ça aussi. Voilà, ils ont même aussi d'ailleurs sauvé d'autres rivières. Voilà, donc si vous souhaitez les rencontrer, vous savez où aller. Vous avez les références sur le site de CO2 Mon Amour. Et on va poursuivre le voyage en musique. Et après, on retrouve la fête de la nature avec François Le Tourneux.
C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne pour nous refaire une santé, rien de tel que la campagne. Je prends la glacière, le pack de bière et un bon pain de campagne. Les pâtes au gaz, les chapeaux de paille et battons la campagne. voudrais manger, on part faire une balade. Et quand bien même on est à pied, je te fais le coup de la panne. De t'ennuyer toute seule à la campagne, sans tes copines, ça serait le bagne. Bon ben, tant pis pour la campagne.
Ça, c'est mon réalisateur, donc Jérôme Boulet, qui a aussi, d'ailleurs, je tiens à le dire, donc réalisé bien sûr ce reportage que vous avez entendu sur l'Artense, et Thierry Lupin. Ils sont mis à deux, là, connexion de neurones, et hop, ils nous ont trouvé, donc le Kent, allons à la campagne.
Allô, dame.
CO2, mon amour.
Dis donc, toi.
Denis Chessou.
Demain, sur le coup de midi, tu me feras le plaisir d'emmener ta chèvre à la campagne.
Tu la distraras jusqu'à 5 heures, je veux que personne n'ait dans les pattes.
Sur France Inter.
Ben, alors, et oui, c'est ça aussi, toujours, c'est où de mon amour, faites de la nature, vous pouvez aussi la faire vous-même, F-A-I-T-E-S, faites de la nature, donc tout ce week-end, il va faire à peu près beau, donc ça c'est plutôt pas mal, François, le tourneux, est-ce que cette nature pourrait, j'y viens pourrait, nous permettre de rêver un peu plus collectivement ce siècle qui est absolument sans récit, depuis que l'ultra-consommation a joliment asphalté nos idéaux?
Oui, certainement, parce que nous avons une bénédiction, c'est que la nature nous pardonne tout. La nature nous se réconcilie avec nous dès qu'on commence à le faire.
T'es une bonne fille.
Oui, alors c'est peut-être ce qui lui fait du tort d'ailleurs, parce que elle peut-être que quelquefois on en abuse. Mais ce qui est très très formidable, c'est que dès qu'on arrête de l'emmerder, dès qu'on arrête de la massacrer, elle répond tout de suite. On arrête de mettre des insecticides et il y a des papillons. On arrête de dessécher le terrain en pompant une eau considérable et de nouveau les fleurs fleurissent. Donc on n'a pas les 50 ans de résilience qu'on a sur le climat. La réponse est immédiate. Alors bien sûr, on rattrape pas 50 ans de gabegie en 2 ans, mais en 2 ans, on voit déjà des choses changer. Et donc c'est une puissante incitation à travailler ensemble, à se tirer à la bourre et à être fier de ce qu'on fait.
D'où, par exemple, aussi la création d'aires marines protégées, parce qu'elles servent aussi à ça, ces aires marines protégées.
Voilà, donc, non, mais chacun à son niveau.
Oui, c'est ça qu'il faut dire.
Chacun à son niveau, on peut être dans un grand mouvement collectif et se dire que ça paiera tout de suite, qu'on verra le résultat de notre action.
Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi mélanger, parce qu'il faut tout mélanger, c'est-à-dire la philosophie, les arts, la culture. Et là, on va rejoindre un chef d'orchestre, Julien Dasmondet, qui est fondateur et directeur artistique du 15e Festival de Musique Pierre Loti. Nous sommes en Charente-Maritime, nous sommes au pays Rochefortais de Marennes-Oléron. Alors, bon, Pierre Loti, écrivain, officier de marine, homme qui est né au milieu du 19e siècle, qui s'est nourri, donc, avant tout de ses récits de voyage, hein, donc, de ses voyages, Tahiti, Japon, la Turquie, qu'il adorait. Bon, aussi la Bretagne, quand même, pêcheur d'Islande, le Pays Basque. Et alors, bonjour à vous, Julien Dasmondet. Et donc, vous, chef d'orchestre, avec ce besoin de nature.
Bonjour. En fait, j'ai besoin souvent de revenir sur des lieux de nature, et notamment là où j'ai mes racines familiales, à l'île d'Oléron. qui est un endroit où je me reconnecte en effet avec avec le monde, parce qu'avec mon métier je voyage beaucoup, je suis plutôt enfermé dans les salles de concert, et pourtant à travers les œuvres que je dirige et que je travaille, beaucoup sont en lien avec la nature. J'ai beaucoup dirigé du Debussy, qui disait que le meilleur conservatoire c'était l'observation de la nature, le vent dans les feuilles, regarder le rythme de la mer. Donc j'ai toujours, moi pour un besoin personnel, toujours eu cette nécessité d'aller prendre mon vélo et d'aller sur les marais à l'Éveron. Et puis aussi d'observer, comme l'ont fait les compositeurs, la nature pour essayer de trouver une sérénité, un calme, un retour sur soi-même qui est essentiel pour un artiste.
Oui, c'est-à-dire vous faites comme François Royer Duchâble, qui aussi lui fait de la bicyclette, mais là c'est en Haute-Savoie, et qui avait besoin de cet apaisement, et il disait que le rythme de la bicyclette lui permettait de trouver aussi son propre rythme aussi en tant que pianiste.
Absolument. Il y a en effet il y a quelque chose en plus nous avec le rythme cardiaque, avec la pulsation, et on retrouve aussi en observant la nature avec cette question de mouvement quand on regarde le rythme des vagues, de la mer, et c'est quelque chose, un flux naturel qu'on essaye aussi de retrouver nous dans l'interprétation. Donc il y a beaucoup de parallèles à évoquer entre la musique et la nature, et évidemment la nature a été tellement une source d'inspiration pour grand nombre d'artistes et notamment de compositeurs qui ont passer leur temps à observer les changements de lumière sur le paysage, la poésie des saisons. Tout ça a été transposé pour le chant et pour les instruments.
Quand la nature inspire les écrivains, parlons quand même de cet homme, évidemment, extrêmement voyageur, on le sait, qui était un académicien un peu académique et que vous fêtez, donc c'est Pierre Loti. Quel était son rapport à la nature ?
En fait, toutes ses œuvres parlent de la nature, et en fait, ça éveille tous les sens. Alors, c'est très descriptif. On a dit que c'était une écriture impressionniste, parce que voilà, quand on lit du Pierre Loti, on voit, on entend, parce qu'il décrit beaucoup tous les sons, les bruits de la nature, les musiques qu'il peut entendre aussi dans les différentes villes et pays qu'il visite. Et puis, on sent les embruns, on sent la marée. Donc, c'est vraiment une écriture qui éveille les sens. Voilà, et moi j'ai été très sensible à ça, et je trouve que c'est une écriture par sa fluidité extrêmement musicale. Et c'était aussi pour moi traiter une période artistique, la fin 19e, début 20e siècle, où il y avait beaucoup de connexions entre les écrivains, les compositeurs, les peintres. Et à travers le festival, j'ai voulu recréer ça, un lieu de rencontre où on puisse faire se rassembler des artistes d'horizons différents.
Alors du 25 mai au 1er juin, donc cet hymne à la nature, cette 15e édition donc de ce festival de musique au pays de Pierre Loti. Grand merci à vous Julien Masmondet, et puis à très très bientôt, et on mettra donc évidemment les coordonnées sur le site de CO2 Mon Amour. À bientôt Julien Masmondet.
Merci beaucoup, merci Denis.
Alors ça évidemment, François Le Tourneux, c'est aussi le côté dont on a besoin, récréatif, culturel, spirituel, que nous apporte la nature.
Oui, c'est on sait maintenant que, enfin, il y a eu des études sérieuses sur la santé mentale et la nature, et tout simplement le bon-être, le bonheur et la nature. Et c'est la fête de la nature depuis l'origine. C'est bien sur cette idée qu'elle est construite. La nature, c'est du plaisir, c'est du bonheur. La nature, c'est bien manger, c'est manger, je veux dire manger sain, manger près de chez soi. C'est se sentir en harmonie avec le vivant qui nous entoure et sans lequel on ne pourrait pas vivre.
Parce que vous, l'ancien président de l'UICN, aujourd'hui président donc de cette fête de la nature, je crois que vous y avez répondu. Mais si je veux être utile pour la biodiversité, beaucoup de gens se disent comment je priorise les choses.
Si on priorise les choses, il faut arrêter de manger de l'huile de palme, il faut s'occuper, je le disais, de notre alimentation. Le fait que nous soyons un pays riche est beaucoup plus important pour la biodiversité du monde que le fait d'installer un hôtel à insectes pour avoir quelques papillons chez nous. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Et pour le reste, je pense que si on veut agir chez soi, il faut arrêter de vouloir que tout soit propre autour de nous. Il faut arrêter de tondre toute la pelouse. Tondons ce qu'il faut comme pelouse pour pouvoir poser le barbecue, mais laissons autour un mètre de large de grandes herbes pour retrouver un lézard ou deux et des papillons.
Et faisons aussi attention à notre outre-mer, parce que c'est là que ça se passe, la biodiversité. On en a plus de 80-90%, ça se passe aussi en outre-mer.
Et dans la mer.
Caresse, je préfère que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage. Chez toi, j'emmène pas large. Chez toi, sixième étage, je suis prise d'envie sauvage, de clair-obscur caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage. Avec la face de Reagan, et si tu veux, je te dépanne. Moi, je connais toutes tes failles. Soirée paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Moi, con, que t'as pas d'âme, mais moi, je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est l'automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout.
Ben c'était Marie-Fleur que je découvre, qui nous interprétait QCC. Alors c'est pas QCM, hein, c'est, je n'ai pas questionné un choix de... Je sais pas, pour le C, mais est-ce que chou-fleur, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. Et donc, juste peut-être un ou deux lieux, peut-être, François Le Tourneur.
C'est compliqué, les lieux, parce que si j'y vais frustrer tous
non,
les gens...
Non, mais c'est pas grave, c'est, allez, c'est le principe.
Alors on va je vais vous emmener vous promener dans le Bois d'Ormois.
Oui.
Vous savez où c'est, le Bois d'Ormois?
Dites-moi.
C'est sur la butte Montmartre. Incroyable, qui savait qu'il y avait un site qui s'appelait le Bois d'Ormois sur la butte Montmartre. C'est une friche qui est devenue une jungle et dans laquelle il y a un jardin partagé. Et il y a beaucoup d'opérations qui se passent dans des jardins partagés parce que les gens qui cultivent vous apprendront comment ça fonctionne et comment les liens de la nature sont tissés. Puis le deuxième exemple, qui lui aussi, comme ça, c'est aller voir pondre les tortues marines sur les îles de l'archipel de Guadeloupe, où elles ont recommencé à pondre.
Oui.
Et vous savez qui organise cette visite? Les équipes locales d'EDF. Mmh. Qui se serait attendu à ce qu'une entreprise soit fière de montrer ce qu'elle fait? De la même façon, à Orléans, on peut en direct, vous pouvez en direct, tout de suite sur votre ordinateur, voir les balbuzards pêcheurs, les aigles pêcheurs...
Balbucam.
Mourir, c'est... balbucam. Nourrir leurs petits sur les pylônes électriques de la forêt d'Orléans. Donc voilà des manifestations faites de la nature... dont on ne s'attend pas à ce qu'elles soient montées dans ces conditions-là. C'est ça le grand amusement qu'on a, c'est que tout est riche et tout est positif.
Vous, François Le Tourneux, donc vous êtes aussi un homme de la haute montagne, dans la Maurienne, dans un lieu absolument incroyable. Mais qu'est-ce qui vous anime toujours? Vous êtes toujours baigné là-dedans, quoi, donc.
Je crois que sans cela, je ne puis pas vivre, comme disait Apollinaire. C'est comme ça, hein, on ne se refait pas.
Donc c'est la fête de la nature. Voilà, ce week-end, merci à vous de nous l'avoir donc présenté. Avec Juliette Delperroux, que nous remercions à la technique, sans oublier Jean-Philippe Jeanne, qui a mixé donc le reportage sur l'Artense, Camille Blanès, et puis Jérôme Boulet, donc, qui a réalisé cette émission. Thierry Dupin donc, a choisi les disques, Anne Gouzon nourrit les sites. La semaine prochaine, ah bah, ça fait une ronde de sujets, plein d'initiatives. On parlera quand même de l'aviation. Oui, on parlera aussi de l'aviation et un peu de réchauffement climatique. 01 56 40 40 35, le numéro du répondeur. Et puis, le Twitter. Ah oui, le Twitter. Vous mettez Chesou, CHEI2SOUX, tout simplement. Pas mal d'indications, donc, aussi là-dessus. La rediffusion entre 5h et 6h. Et que vous dire? Là, tu lis mon petit loup? Oui, ce sera demain à 19h54. Ah oui, on va jusqu'au bout, c'est formidable, c'est tout à fait mignon. Dans quelques instants, ça va être la librairie francophone donc d'Emmanuel Kérade qui va nous emmener, vous le savez, sur différentes contrées avec nos amis donc des radios francophones. Donc vous n'hésitez pas, vous avez aussi le mail hein, si vous souhaitez intervenir. Et donc tout va bien.